En politique, on est hachement balèze. On est parmi les plus balèzes du monde. En politique française. Du monde. Faut dire aussi qu'on est pratiquement les seuls que ça intéresse. Ça va arriver là. Ça sélectionne.
C'est dans l'union. Et seulement ainsi que vous trouverez le chemin d'une vie plus belle. En dehors, il n'y a que la soumission ou l'isolement ou la défaite.
Faciliter l'émergence démocratique avec la vitalité du débat public qui l'accompagne.
The political system increasingly functions without public input. There are two positions presented to me, the voter. I go into the polling booth and I push one or another button depending on which of those positions I want. That's a very limited form of democracy. A real, really meaningful democracy would mean that I play a role in forming those decisions and in creating those positions.
Si on veut vraiment faire la ville durable, il faut vraiment que les habitants deviennent acteurs de la ville, c'est évident, parce que si on est juste des simples utilisateurs de voirie, voilà, il faut un moment aussi devenir acteur de son quartier.
Jérôme Savchuk, chercheur en urbanisme à l'UBO.
Pour pouvoir justement lui identifier où il y a des problèmes, voir ce qui marche bien aussi, puis le partager. Voilà, je pense que la démocratie, il faut qu'elle reparte de la base. Et elle a été un petit peu prise en otage par certaines personnes qui ont pris l'habitude d'avoir le pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment redonner ce pouvoir un peu à tout le monde et dire que c'est accessible à tout le monde, en fait, la politique. Et justement, choisir la ville devrait être pour tout le monde et pas qu'une fois tous les 5-6 ans quand on fait une élection, quoi.
La ville ne peut se construire sans ses habitants. C'est un travail qui doit se faire ensemble, grâce à la concertation. Brest affiche justement avec enthousiasme sa volonté d'impliquer les citoyens. Le site jeparticipe.brest.fr recense différentes instances, telles que les assemblées de quartier, des projets comme le budget participatif, lequel propose tous les 2 ans d'allouer une partie du budget de la ville aux projets d'intérêt général proposés par les habitants, qui auront remporté le plus de votes. On y est aussi invité à participer à des consultations publiques relatives à l'aménagement. Construire la ville ensemble, c'est aussi la une du numéro de janvier 2019 de SILLAGE, le magazine de la métropole célébrant, je cite, « l'expertise du quotidien des habitants et des habitantes » et la démocratie participative. Glenn Dissot, vice-président à Brest Métropole, partage cette ferveur.
Je suis un grand passionné et convaincu de la concertation, de la participation citoyenne. C'est quelque chose qu'on a toujours défendu, en tout cas dans mon courant politique, les écologistes. On a pris une dimension supérieure, on a vraiment accéléré là-dessus. On a un conseiller délégué, Gwendal Kiger, sur ces questions-là. Donc il y a effectivement le budget participatif, dont on fait grossir un peu l'enveloppe. Et il y a tout un tas de refontes des mécanismes de quartier, de la concertation. Alors après, effectivement, il faut qu'on développe ça, qu'on massifie ça, qu'on trouve des moyens qui soient confortables et à la portée de toutes et tous, parce que parfois, les élus sont loin, les canaux sont super compliqués, donc on écrit des courriers et puis après on lâche l'affaire. Si on a des façons d'aller au plus proche de tout le monde, là où ils sont, et de solliciter l'avis, voire donner les clés si les gens veulent le faire, il faut absolument développer ça. Moi, j'y crois beaucoup et je trouve que ça... Au contraire, je pense que c'est un canal qui est parfois beaucoup plus efficace parce que nous aussi, on a une inertie, on a énormément de contraintes, etc. Et parfois, un collectif de 3 ou 20 citoyens font les choses avec une grande intelligence. Donc, j'y crois beaucoup et je suis très content de voir que ça essaime. Alors après, effectivement, pour moi, la clé, c'est dans quelle mesure on arrive à mettre en œuvre ce que les citoyens expriment par ces biais-là.
C'est la clé et c'est même là où ça coince. Quelle est la réalité de la prise en compte de la contribution citoyenne ?
Construire la ville ensemble.
Sur ça, il y a énormément de communication de la part,
ouais,
de la ville de Brest, sur la concertation, sur la démocratie participative.
Ah oui, ils sont très très bons. Oui.
C'est que de la com ?
Oui. Bah oui, on le mesure bien dans ce projet-là, oui. Ah oui, la rencontre, Paola Vigano, Rêver la ville. Mais on se demande, mais à quoi a servi cette année passée par Paola Vigano à comprendre la ville, à dire qu'il faut débitumer, que cette ville est beaucoup trop minérale, comme le disent tous les Brestois. Et puis voilà. Ah bah non, c'est un projet privé.
Laure Dosso est une force motrice du collectif Le Jardin de l'Adoration, qui s'oppose, on en parlait précédemment, au projet de Bouygues Immobilier, lequel va en grande partie artificialiser un espace vert en cœur de ville. Le collectif déplore le laisser-faire des autorités publiques, en dépit de leur volonté affichée de retrouver la nature en ville. Il dénonce aussi la démarche de la ville envers les habitants, qui est celle de l'information, mais pas réellement de la concertation.
Là, c'est une lutte, carrément. Bah oui, parce que là, la mairie se cache. L'excuse, c'est du privé, on n'y peut rien.
La parcelle est privée. Un privé qui vend à un autre privé, qui a un projet qui s'inscrit dans la loi, ce serait quand même pas un très bon signe pour notre démocratie que n'importe qui puisse dire « Non, en fait, j'en veux pas, c'est terminé ». Donc on a aussi parfois des cadres et des contraintes réglementaires qui s'imposent à nous et il faut les respecter.
Ben oui, mais la ville, elle donne quand même un permis de construire. Donc c'est un peu une fausse excuse. C'est comme si la municipalité n'avait aucun pouvoir. Mais c'est la ville, quoi. Et la ville, elle est à nous, elle est à ceux qui y vivent.
Laure partage aussi son expérience du budget participatif. Avec le conseil consultatif de quartier de Brest-Centre, elle propose un espace de la biodiversité au jardin Alphonse Juin, près de la gare.
Et on a demandé une friche pour attirer les pollinisateurs, mettre des nichoirs dans les arbres, un peu de mobilier, etc. On a fait un plan qu'on a été retenu avec un budget de 40 000 euros pour ça, ce qui paraît beaucoup. On était contents, sauf que après, plus de dialogue avec nous. Le service des espaces verts gère cet argent de 40 000 euros. Et tout d'un coup, on découvre qu'ils ont mis 3 chaises longues, une table de pique-nique, sur une dalle en béton qu'ils ont recouverte d'une pelouse synthétique pour que ça fasse joli. Et on dit, mais attendez, mais ça va pas du tout. Une dalle de béton et de la pelouse synthétique sur un jardin de la biodiversité. Non, mais c'est ridicule, mais c'est inacceptable. Et on est dans cette lutte maintenant. Parce que pour moi, c'est inadmissible. Il y a un problème là de concertation, de dialogue. Pourquoi on n'est pas consulté sur le choix de ce mobilier, etc. On peut mieux faire. Et donc, on leur donne des idées. Il y a des collectifs de paysagistes sur Brest qui sont tout à fait bien pour faire de la concertation, demander aux gens ce qu'ils veulent, travailler ensemble. Moi, quand j'entends ça, je me dis ça ne sert à rien de voter. Ne vous étonnez pas que l'abstention soit en forte hausse. La municipalité ne sert à rien. Elle ne contrôle pas le développement de la ville. Ça ne va pas du tout. Ça, je ne comprends pas.
Lorsque les instances de participation semblent ne pas suffire pour se faire entendre, on comprend que le citoyen puisse se décourager et abandonner la démarche participative.
C'est pas facile de toucher les habitants aussi. Donc faire participer les gens, c'est... Après, ce qui fait aussi que les gens ne participent plus, c'est parce que, en fait, on a souvent l'impression que, on a participé, c'est pas décidé, c'est pas choisir. Au final, c'est rare que l'on demande vraiment. Enfin, si, on l'a demandé une fois aux habitants de Brest. Le dernier référendum qu'il y a eu à Brest, c'était sur le tramway. Et donc, les gens ont voté contre. Et au final, le tramway s'est fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Brest, il y a eu un référendum dans le passé. Donc, on avait une politique intéressante de prise en compte de l'avis de la population. Et au final, alors je pense qu'il y a eu un traumatisme suite à ce non au référendum sur le tramway. Et maintenant, on n'ose plus demander parce qu'on a peur qu'on dise non. Mais en même temps, si on demande l'avis aux personnes, justement, il faut accepter qu'ils puissent dire oui ou qu'ils disent non à un projet. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les élus n'ont plus envie de prendre ce risque-là.
Plutôt que de se décourager, certains collectifs, délaissant les structures institutionnelles, se forment pour contester. La lutte serait-elle un moyen plus efficace de se faire entendre ?
Je pense que c'est pas tant que ça une question d'efficacité que de modalité de pouvoir prendre la parole et que celle-ci soit prise en compte, parce que c'est beaucoup ce qui est remis en cause par les contestations, justement, c'est que les modalités de participation telles qu'on les connaît aujourd'hui, finalement, elles permettent difficilement de pouvoir avoir une vraie voix qui est entendue et prise en compte.
Maëlys Créache, doctorante en urbanisme, commence son travail de thèse sur les contestations citoyennes comme facteur d'expérimentation dans les pratiques urbaines.
Les processus participatifs, ils n'ont pas que des points négatifs, hein. Faut aussi voir leur bon côté, hein. Ça permet d'avoir un espace qui est plus ouvert pour discuter, etc. Mais la limite, c'est celle de l'action, quoi. Là, on est dans des processus participatifs qui sont un peu plus innovants que ce qu'on a l'habitude de voir. On est au-delà du réglementaire.
Parmi ces collectifs, l'association Safe Tangalar, dont la mobilisation avait permis en septembre 2020 de faire annuler un projet de construction au Vallon de Tangalar. L'annulation est entre autres justifiée par la règle du vélum, une règle limitant la hauteur d'un projet de construction relativement à la hauteur des bâtiments environnants. Plus tard, en 2021, Brest propose une concertation pour la modification simplifiée du PLU, le plan local d'urbanisme. La définition de la règle du vélum ayant fait débat durant la procédure de contestation du projet à Tangalar, la ville reprend la définition qu'en proposait le promoteur, laquelle se révèle incompréhensible.
D'ailleurs, on a même essayé de se la faire expliquer par les services de l'urbanisme, qui n'ont pas été fichus de nous l'expliquer. On a obtenu, on a été demandé leur avis à l'École supérieure d'architecture de Nancy, qui est la plus haute autorité universitaire en la matière. Ils nous ont dit que la définition en question était incompréhensible et qu'elle n'avait aucune existence juridique. Donc on a contesté cette définition.
L'association contribue à la concertation en contestant cette définition, propose celle précisée par le juge, qui est utilisée dans d'autres villes, ainsi qu'une méthode d'application. La ville ne retient que la critique de la définition et, lors du bilan de la concertation, supprime la règle.
Ils nous ont en quelque sorte agité le chiffon rouge de leur définition est compréhensible. Ils nous ont agité ça devant le nez, on s'est excité là-dessus. Et ça leur a permis de dire « Ah, le vélum pose des problèmes de compréhension et de définition ». Mais ils ont complètement oublié qu'on avait mis en face la définition classique du vélum et une méthode pour l'évaluer. Là, c'est le problème de la concertation. On a présenté trois points, critique de la définition, demander de maintenir la définition du juge et troisièmement, montrer que cette définition était opérationnelle. Les contributions des gens sur le site ont été détournées de leur objectif, présentées de manière complètement partisane. On est un peu étonné du support qu'apporte Brest Métropole au travail des promoteurs. Ça, celui-là, c'est un des exemples. Le promoteur perd son procès à cause d'une règle d'urbanisme. En septembre 2020 et juillet 2021, la règle est supprimée.
Par ailleurs, selon la loi, une modification simplifiée ne peut pas permettre une augmentation de plus de 20% des droits de construction. Or, selon l'association, c'est le cas de la nouvelle règle de hauteur. Elle s'adresse par courrier au préfet, plusieurs fois, pour demander si ce nouveau PLU est conforme à la loi. Demande qui reste pour l'instant sans réponse.
C'est des sujets très compliqués. Moi, j'entends vraiment parfaitement bien, parce que j'y suis vraiment très sensible, les demandes des riverains et des habitants d'un quartier quand ils voient pousser quelque chose. Je comprends ça et je crois vraiment que les ressorts sont les bons, en fait. Ils ont raison de s'intéresser à ça et c'est ça qui nous pousse à avancer aussi. Je trouve ça super. Après, il y a toujours un phénomène compliqué qui est le « not in my backyard », ce phénomène qui vise à dire « oh là là, pourquoi pas, c'est peut-être intéressant comme politique, mais je le veux pas à côté de chez moi, je le veux pas dans mon jardin, et moi ça m'embête ». C'est pas tout le temps acceptable, c'est-à-dire que sur certains projets, effectivement, on part d'une copie de départ qui est pas satisfaisante. On peut avancer, on peut travailler, on peut faire descendre le projet en termes de hauteur, on peut rajouter de la végétalisation, on peut ouvrir un jardin aux habitants du quartier, etc. Tout ça, pour moi, c'est le rôle de la collectivité. Donc, on a quand même une marge d'action. Je veux bien entendre que le curseur n'est pas assez bon, que des gens ne veulent absolument pas de ce projet, qu'il faut rien toucher. C'est très entendable, je respecte ça. Après, je crois que notre responsabilité d'élu, c'est aussi de voir ce qui se passe sur le territoire, l'énorme contrainte et l'énorme pression foncière et les énormes demandes, d'essayer d'arbitrer.
Si la lutte se présente comme moyen de réappropriation de la parole et réintégration au processus de décision, Maëlys Créache, comme Glenn Dissot, lui admet ses limites, notamment en ce qui concerne la légitimité de l'individu et sa capacité à penser l'ensemble des enjeux de l'urbanisme.
Souvent, c'est lui qui se monte aussi sur des intérêts. C'est souvent des collectifs d'habitants, donc des collectifs locaux qui sont directement impactés, qui se montent et qui après montent leurs idées en généralité. Donc notamment au niveau de l'environnement, de l'intérêt général, etc. À la base, il y a quand même les intérêts personnels. Et puis, pour moi, ça ramène un petit peu aussi, tu vois, à la notion de la compétence des habitants pour faire la ville. En fait, l'urbanisme a été quand même construit sur un modèle assez particulier qui est un modèle de langage qui se veut assez universel, donc qui est assez facilement appropriable. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile de faire de l'urbanisme et que c'est facile de prendre en compte absolument tous les enjeux, notamment les enjeux liés aux institutions publiques, au secteur privé et aux habitants. Donc en fait, il faut réussir à trouver un juste milieu entre tout ça. Les habitants n'auront pas toujours raison, mais l'institution non plus et les secteurs privés non plus.
Les contestations se font sans doute parfois par intérêt personnel, mais aussi, comme le rappelle Jérôme Savchuk, chercheur en urbanisme, bien souvent pour faire respecter les règles en place.
Souvent, les projets, quand ils sont abandonnés, c'est parce qu'ils ne respectent pas les documents. Il ne faut pas oublier ça, c'est qu'au final, la vallée du Restic, s'il a été retoqué, le projet, c'est parce qu'il ne respectait pas certaines normes. Pareil au vallon du Stangala. Aujourd'hui, en fait, c'est si déjà on appliquait les normes qui sont en place, il y a des projets qu'on ne ferait pas. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le problème, c'est qu'il faut pas faut que les villes arrêtent d'être... Enfin, les villes, tous les promoteurs arrêtent de devenir des spécialistes du contournement de la règle. Donc déjà, si on appliquait les règles en place, je pense qu'on irait plus sur la ville durable.
Le tribunal nous a donné raison. On avait raison de faire un recours, puisque le projet n'était pas conforme au PLU. Donc là aussi, il y a un sujet qui nous préoccupe, c'est est-ce que les services instructeurs de tous ces projets immobiliers font-ils leur travail avec suffisamment de rigueur? S'ils faisaient le travail avec suffisamment de rigueur, on ne serait pas obligé de dire « Ah, mais pour l'écoulement des eaux, là, votre projet est contraire au PLU ». Pour les espaces boisés classés, votre projet est contraire au PLU, on ne serait pas obligé de faire des recours pour ça.
Vincent Langlais, de Save Stangalar, rappelle aussi qu'à Brest, les concertations entre la mairie et les promoteurs restent privées et les projets ne sont rendus publics qu'une fois le permis de construire accordé.
C'est seulement à ce moment-là que ça devient public, consultable. On peut aller à la mairie demander à accéder au plan et à tous les documents du projet. C'est seulement à ce moment-là que les voisins ou les associations peuvent regarder ce qui se passe.
Mais c'est trop tard déjà.
C'est trop tard, on ne peut plus rien modifier puisque le permis est accordé. Donc la seule solution qu'il y a, c'est de faire un recours administratif, ce qui est très chronophage, très fatigant et très coûteux.
Quelle qu'en soit la légitimité, la lutte prend beaucoup de temps et d'énergie. Idéalement, la contribution des habitants a vocation à être intégrée et réellement prise en compte, plutôt que de perpétuer un rapport de force et d'antagonisme. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous les outils en main pour développer une démocratie municipale plus intégrative sans besoin de refonder le système. Un article du Monde du 16 juillet 2021, intitulé « Comment les villes reprennent la main sur l'aménagement de leur territoire », décrit la manière dont plusieurs municipalités adoptent des chartes de construction, proposant un urbanisme écologique et solidaire plus ambitieux et plus exigeant, et qui surtout impose aux promoteurs la concertation avec les habitants en amont des projets. L'intercollectif Au pied du mur, nouvellement formé, demande dans un communiqué de presse du 8 décembre l'élaboration d'un tel pacte à Brest.
L'avenir, c'est de travailler ensemble avant les projets, sur le plan de la construction, les matériaux de construction. On est dans une période de transition et donc il faut revoir la façon de procéder. Et là, c'est pour ça que je parlais de projets archaïques, c'est qu'il me semble que Brest est complètement à la traîne. Il ne faut pas que ce soit limité à l'espace public, il faut que ce soit aussi pour les projets privés, sinon ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut mettre en place une règle du jeu. On veut de nouvelles règles, de travailler avec les citoyens pour établir une charte. Charte de la construction à Brest. On se réunit, on définit comment on va travailler, et puis, donc avec les constructeurs, les bailleurs, les organismes sociaux, les riverains, les habitants, et tout ça, on se met tous d'accord, et on va gagner du temps, on ne va pas faire des recours qui durent des mois, des années, comme au Stangalar, etc. C'est bénéfice pour tout le monde, quoi. Tout le monde gagne du temps, et à mon avis, ça se passe mieux, quoi, au lieu d'avoir une lutte qui épuise tout le monde.
L'idée est d'ailleurs partagée par Glenn Dissot.
Je sais bien que le temps de l'urbanisme est long, que c'est fatigant, que c'est compliqué, que les recours, c'est jamais des choses très très agréables, et qu'on a certainement quelque chose à travailler au niveau global, parce que comme on disait tout à l'heure, dès qu'il y a un projet, il y a un recours, donc c'est qu'il y a quelque chose à travailler, au niveau de la concertation le plus en amont possible des riverains, par exemple.
Pour Maëlys Créache, cependant, la lutte n'a pas toujours vocation à être intégrée. Elle constitue même un contre-pouvoir nécessaire, qui en apportant de nouvelles idées, permet une dynamique qui va de l'avant.
Les contestations, historiquement, sont prises comme les premières formes de participation. Hein. C'est un moyen de démocratie locale qui est quand même assez bien renseigné. Et je ne suis pas sûre que toute la contestation soit amenée à être reprise dans un processus plus institutionnalisé, en fait. La question, c'est plus qu'est-ce qui peut s'institutionnaliser. Enfin, c'est la question on revient à la question de la norme et de l'informel, quoi. Les espaces contestataires, ils se construisent vis-à-vis d'une norme métropolitaine qui a ses défauts. Et, je pense que de toute façon, on aura toujours des luttes urbaines parce qu'il y aura toujours des objets de contestation. Et puis de toute façon, même dans la construction de la ville, on voit bien qu'elle joue toujours avec cette norme, que finalement elle intègre de nouvelles choses au fur et à mesure. Et c'est ce mouvement de balancier entre la norme et au contraire, entre la norme et tout ce qui est informel, qui permet d'avoir des nouveautés et etc. Donc, et de pousser un petit peu plus à chaque fois, quoi.
plus on a de débats sur un projet, mieux c'est. Il ne faut pas fuir le débat. Le débat, il va enrichir le projet, c'est certain. Alors des fois, il peut faire aussi échouer un projet. Mais au final, un projet qui échoue, je pense qu'il faut voir ça aussi des fois comme une réappropriation. Et du coup, ce n'est pas le projet initial, mais c'est quelque chose d'autre qui est intéressant et qui va peut-être donner un morceau de ville beaucoup plus intégré dans la ville au final. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas tout bloquer. Hein. Je suis d'accord que le but, ce n'est pas d'arriver à une ville figée. Mais en même temps, est-ce que c'est bien d'aller vite? C'est bien de prendre le temps de réfléchir. Et je pense que le temps du débat, le temps de la discussion, alors l'opposition des fois, il est important et il peut enrichir souvent un projet où il y a eu un débat des oppositions. Il est souvent plus qualitatif par la suite.